Bonjour, c'est Chéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore. Un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles. Il n'y a pas de questions bêtes.
Oula, mais bonjour d'abord. Bienvenue dans un tout nouvel épisode de Bip Sonore et un épisode que vous allez adorer, je pense, puisque je suis accompagnée de ma maman.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde. Ma maman, du coup, on va parler de pas mal de choses qui sont très très importantes pour nous. Et on va avoir un point de vue qui va être complètement différent, puisqu'on est deux mamans d'une génération différente, avec une expérience de maternité qui est complètement différente. Et aujourd'hui, on va parler. Alors, on va parler postpartum, on va parler déculpabilisation en tant que maman et en tant que parent, par rapport à ses enfants, par rapport à la pression sociale, la pression de la société, la pression de tout. Et vraiment, si vous êtes jeune parent, jeune maman, cet épisode va vous faire énormément de bien.
Tout à fait. Mais on va commencer par parler de quoi ?
Ah !
Enfin, par parler de quoi ? C'est-à-dire, là, le postpartum.
Oui, en effet. Alors, du coup...
Pose-moi des questions.
Je vais te poser des questions. Tu es sur ce canapé pour répondre à toutes les questions. En plus, je ne sais pas si vous savez, mais ma mère, elle est sans langue de bois.
Voilà, tu poses des questions et je réponds.
Alors, ouais, je veux dire, je suis vraiment en train de me faire engueuler, là. J'ai plus 31 ans, là, j'ai 12 ans et demi.
Mais tu seras toujours mon bébé.
C'est vrai, c'est vrai. Mais avant toute chose, les amis, on vous présente l'annonceur de cet épisode. Pour la première fois sur Bip Sonore, c'est une première. Nous sommes accompagnés par la gamme de soins d'Exeril qui accompagne les peaux de toute la famille et nous propose le temps de cet épisode, un moment d'apaisement pour échanger et déculpabiliser autour de la maternité et du postpartum. Donc, maman, première question parce que oui, aujourd'hui, on est organisé. D'habitude, on est désorganisé.
Oui.
Aujourd'hui, on est organisé.
Oui, on a du mal à s'organiser.
Ah ouais. Oui. Toi, tu trouves que tu as du mal à t'organiser ?
Ça dépend.
Moi, je trouve pas que tu as du mal à t'organiser. Hein.
Ça dépend.
Non.
Je suis organisée, mais il y a des moments où on lâche prise. Oui.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Non, moi, je suis pas du tout organisée.
Pas du tout.
Mais...
Quoique, maintenant, avec l'âge,
ouais,
tu as pris conscience et tu commences vraiment à t'organiser.
C'est vrai.
Et je suis contente.
Mais c'est parce que je commence à t'écouter. Enfin, je commence à t'écouter. C'est toi qui me pousse. Ah.
Parce que t'es maman.
Oui, c'est vrai.
Ah oui.
Ah oui, c'est vrai que la maternité, ça m'a donné vraiment envie de m'organiser.
C'est ton fils.
Mais tu sais que je le fais pas pour moi. Hein. Je le fais pour nous.
Oui. Mais c'est ton fils qui t'a poussé à devenir de plus en plus organisé.
Complètement.
Oui.
Et franchement, c'est génial.
Bien sûr, ouais, pour toi, vrai. Pour tout le monde.
C'est vrai, c'est vrai. Mais revenons-en au sujet. Bah, en même temps, on est dans le sujet, hein, vu qu'on
revenons
a parlé de
nos fils. Revenons à nos moutons.
Exactement. Donc là, on va parler des attentes versus la réalité. Parce qu'en réalité, avant d'être maman, avant d'avoir une grossesse, etc., on imagine pas mal de choses liées à la maternité, à la grossesse, etc. On pense que ça va être comme ci, on pense que ça va être comme ça, en fonction de ce qu'on voit à la télé. Bon, pour ta période, c'était en fonction de ce qu'on entend à la radio ou à la télé.
Plutôt les magazines.
Les magazines. Moi, pour ma période, c'était en fonction de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'était complètement différent parce qu'à ton époque, il y avait une certaine idéalisation de la grossesse dans les magazines et tout. Alors qu'à mon époque, là, on voit tout sur les réseaux sociaux.
C'est bien.
Et généralement, on voit aussi beaucoup le pire, parce que c'est ce qui se partage le plus facilement. Et donc, du coup, on va parler de l'attente versus la réalité d'un accouchement. Et ce qui est bien, c'est qu'on a eu des attentes qui étaient complètement différentes.
Exactement.
Toi, du coup, comment est-ce que tu imaginais la maternité avant que tu sois maman, avant que tu accouches ? Et comment ça s'est passé en réalité ?
Moi, je l'imaginais le plus naturellement possible.
Ouais.
En voyant ma mère, mes tantes, mes cousines plus âgées que moi,
ouais,
c'était passer 9 mois enceinte, après aller accoucher. Il n'y avait pas toute cette préparation que vous avez.
Ouais, ok, d'accord.
Vous avez beaucoup, vous vous préparez beaucoup.
Ouais, ok.
Ça peut être négatif comme positif. Mmh. Nous, quelquefois, c'était des surprises.
Ouais.
C'est-à-dire, on découvre.
Ouais.
Et vous savez tout.
Ah, et tu penses que c'est pas une bonne chose ?
Oui et non.
C'est vrai.
Oui et non.
Ouais, c'est vrai.
quand tu, moi, je, enfin, j'ai accouché deux fois sans péridurale.
Waouh! Est-ce qu'on peut applaudir? Franchement, moi, j'applaudis. Hein. J'applaudis. Oui, parce qu'on est nombreux aujourd'hui.
Donc, c'était pour la première, c'était vraiment la surprise. Et je me souviens que ma mère était avec moi, qui m'accompagnait.
Ah, trop bien.
Et je lui posais la question, est-ce que ça fait mal? Et ma mère, pour me rassurer, et ça m'a beaucoup aidée, heureusement qu'elle était là, elle m'a dit, tu sais, c'est comme si tu as tes règles, mais c'est juste un tout petit peu plus de douleur. Mais c'est comme si tu as tes règles.
Ouais.
Et psychologiquement, ça m'a aidée.
Ah ouais?
Oui.
Mais alors du coup, est-ce que c'était vraiment ça?
Non. Non, parce que les deux dernières heures, c'était vraiment... Ouais.
C'était vraiment dur?
C'était très douloureux.
Ouais.
Et heureusement que ça, le travail durait que 5 heures.
Ok, bon ça va, oui. Au final. Ça va.
Et ça s'est très très bien passé.
Ok.
Et pour toi? J'ai été voir l'anesthésiste, wow. Je me préparais et tout. J'ai dit, voilà, ça y est, cette fois,
il
n'y a pas de douleur, rien du tout.
Je vais y avoir droit à cette fameuse péridurale.
Mais comme j'ai été le plus tard possible, à chaque fois, j'ai dit, j'attends encore un peu, encore un peu. Sauf que je ne savais pas que j'étais en train...
Dans le travail, quoi.
Oui, et quand je suis arrivée à la maternité... Et j'ai dit à la sage-femme, au fait, j'ai une péridurale. Elle m'a dit, non, madame, vous êtes à 7 cm.
Et comment t'as réagi, toi?
Bah, tout de suite.
Tu t'es dit ça,
j'avais la boule au ventre.
Bah ouais. Parce que t'en avais deux, du coup.
Oui, j'ai dit, oh là là, je vais revivre Et puis après, ça s'est très, très bien passé aussi. Mais bon, c'est un épisode douloureux et heureux aussi.
C'est vrai. Ouais, ouais. Mais il y a beaucoup de mamans aussi qui parlent du fait que le fait de ne pas avoir de péridurale, qu'ils le font en tant que choix, on récupère beaucoup plus rapidement. On est beaucoup plus... debout directement, directement faire ses activités ou autre et tout.
Oui.
Je pense qu'il y a un point positif et un point négatif et que chaque, on va dire, alternative est adaptée à chaque cas de figure.
Exactement.
Mais surtout à chaque personnalité et chaque... on va dire, capacité physique et capacité aussi à la douleur.
Oui.
Mais du coup, des autres attentes, par exemple, des attentes de la vie de maman, etc. Est-ce que toi, tu trouves qu'on t'a préparé à la vie de maman? Surtout non. Que toi, en plus, t'étais une maman seule.
Non, non. Moi, j'ai eu ta sœur à 20 ans.
Ouais, ce qui est jeune.
Et j'ai été...
Enfin, jeune pour maintenant. Enfin, oui. Jeune.
Jeune, 20 ans. Ouais, je l'ai eu à 20 ans.
C'est jeune
ans.
Et c'est pas jeune, ça dépend pour qui.
Et mais... j'étais seule. Mais je sais pas si c'est l'instinct maternel. Je sais pas, c'était... tout était autour de ta sœur. C'était... ma vie, elle était... enfin, ma vie de femme. Elle s'est arrêtée. C'était mon enfant.
Ah ouais, d'accord.
Oui. Peut-être que j'ai mûri, même en l'attendant.
Même pendant ta grossesse?
Oui, pendant ma grossesse, oui. J'attendais un enfant, donc un enfant, c'est important. C'était... Elle était tout pour moi.
Elle est tout?
Non, elle est... Oui, bien sûr. Et elle le sera toujours, bien sûr, toi aussi. Mais non, je n'étais pas préparée. Mais okay. J'ai eu de la chance que ma mère soit... parce que ma mère vivait en Algérie, donc elle faisait les allers-retours.
À cette époque, elle faisait des allers-retours, oui, bah oui, forcément.
Pour venir me voir, pour m'aider. Et elle est venue juste avant d'accoucher.
Ouais.
Donc, elle est arrivée 2-3 jours avant l'accouchement. Donc, elle était là. C'est elle qui m'a accompagnée à la maternité. C'est elle qui était là quand j'ai accouché. Et quand je suis rentrée à la maison, elle m'expliquait le retour des couches. Donc, ma mère m'a aidée beaucoup.
C'est bien ça.
Beaucoup.
C'est une bonne chose.
Elle est restée avec moi pendant un mois et demi.
Ah, c'est génial.
Oui, le temps de...
De récupérer.
Oui, de récupérer un peu. Et après, bon, après, c'est toi, c'est ton enfant. C'est comme les chats avec... Enfin, c'est...
Animal.
Voilà.
Instinct animal, voilà. On va dire.
Tu sais comment tenir ton enfant, tu sais comment le baigner, tu sais comment... Après, tu prenais ton enfant comme ça, et de l'autre côté... Et avec l'autre main, tu travailles, tu fais ton ménage. Mais c'est ça.
Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Mais... Moi, est-ce que j'étais préparée? Oui, parce que j'ai fait la préparation à l'accouchement, par exemple.
Oui.
Chez une sage-femme.
Oui.
Après, même quand tu fais la préparation à l'accouchement, bah, t'es pas forcément préparée puisque bah, moi j'ai eu une césarienne par exemple.
Oui.
Donc du coup, ça servait à rien qu'on me disait ah, bah, tu vas apprendre à souffler en fonction de la douleur parce que j'ai même pas eu de contraction par exemple.
Oui, c'est vrai.
Je sais même pas ce que c'est avoir une contraction d'accouchement ou autre. Hein, genre, j'ai vraiment eu aucune douleur hormis bah, l'après-accouchement du coup par césarienne,
oui,
qui est bah, les douleurs au niveau de la cicatrice, la difficulté à récupérer et d'autres, on va dire, douleurs ou autres. Après, moi, c'est vrai que j'ai été, je trouve, très préparée parce que toi, tu as toujours eu la transparence de me dire comment ça se passait, comment ça a été. Et parce que tu viens d'une génération qui est complètement différente aussi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a complètement déculpabilisée par rapport à tout ce que je pouvais ressentir et par rapport à toutes les attentes aussi que je pouvais avoir. Et tout ce qu'on pouvait voir, on va dire, sur les réseaux sociaux du style « mais il faut vraiment te préparer, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire attention, etc. » Et toi, tu m'as souvent dit « mais en fait, être enceinte, c'est pas être malade. Être enceinte, c'est bah, avoir un enfant dans le ventre.
C'est ça.
Et tu peux continuer à faire les choses que tu as l'habitude de faire, hormis ce qu'on te dit de pas faire et ce qu'on ne doit pas faire
s'il y a d'un point de vue médical, etc. S'il y a des contre-indications, bien sûr.
Bien évidemment. Oui. Mais en gros... bah, ça t'empêche pas, par exemple, si t'as envie de faire un peu du yoga, tu peux faire du yoga si t'es enceinte. Enfin, en gros, voilà, toujours avec un avis médical, of course, mais de continuer à avoir une vie normale. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée, on va dire.
Oui.
Et du coup, aussi, malgré le fait que sur les réseaux sociaux, je vois pas mal de, comment dire, de témoignages de grossesse, soit qui se passent pas très bien, ou alors... autre chose, et c'est très bien qu'on libère la parole autour de ça, je suis hyper contente parce que ça permet aussi à des femmes de se sentir moins seules si elles le vivent.
Tout à fait.
Bah, je trouve qu'en tant que femme enceinte, c'est toujours important d'avoir le recul, de se dire chaque femme est différente, chaque mère est différente, chaque accouchement est différent,
chaque grossesse
est différente. Donc ce qui se passe là, à un moment donné, ce que je vois sur mon écran, ça appartient à l'histoire de cette personne.
Exactement.
Mon histoire sera mon histoire. Et en fait... ça m'a permis de lâcher complètement prise sur ce qui m'arrive. Et c'est drôle parce que, étant une personne très angoissée, je pense que tu le sais.
Oh là là, oui.
Et ben, du coup, je me suis dit que j'allais être la personne la plus angoissée du monde en étant enceinte. Et j'ai été la personne la plus chill du monde en étant enceinte. C'est vrai, hein ?
C'est vrai, ça s'est bien passé.
J'ai eu un espèce de lâcher prise de me dire, bah, je ne peux rien contrôler.
Non.
Et pour la première fois de ma vie, je ne pouvais pas contrôler la situation que je vivais.
La preuve.
Et en fait, le fait de ne pas avoir le choix, de peu importe ce qui se passe, eh ben je me laissais aller. Et par exemple, le jour où on m'a annoncé que j'allais pas accoucher par voie basse, j'étais pas déçue parce que je me disais, bah, j'avais pas des attentes en me disant, je veux que ça se passe comme dans ce film, je veux que ça se passe comme ma cousine, parce qu'il y avait ma cousine qui était enceinte, je veux que ça se passe comme un tel, une telle, machin. Je me suis dit, bah, c'est mon histoire, mon fils, il a choisi de se mettre dans cette position.
Exact.
Et ben je vais le suivre, je le suis. Et donc quand on m'a dit bah t'auras une césarienne, bah d'un côté j'étais enfin c'est bizarre, j'étais un peu soulagée parce que je me disais bon bah tant mieux parce que j'avais un petit peu peur de la voix basse.
Et j'échappe aux contractions.
Aux contractions, la déchirure et tout. Mais d'un côté je me suis dit c'est quand même un acte médical et ça, j'avais une pression autour de la césarienne aussi parce que enfin étant avertie par plein de mamans sur les réseaux sociaux, et ben du coup c'est vrai que j'avais quelques petites appréhensions, mais encore une fois, je me disais, mais Chéra, c'est ton parcours, c'est ta vie, et puis on verra comment ça se passe le jour J.
Oui.
Et du coup, bah,
ça s'est bien passé.
Ça s'est très bien passé, franchement, j'ai eu une césarienne géniale. J'ai pas la plus belle cicatrice du monde, mais c'est pas grave.
Mais il est arrivé comme une fleur. Comme
c'est ça. On l'a accueilli. il lui a fait pipi dessus dès les premières secondes
de
vie.
Ah oui.
Ouais, mais tu savais pas ça ?
Non, je me souviens plus.
Alors. Il a incisé toutes les couches, l'utérus, le ventre, tout, voilà, on n'en parle plus, voilà. Parce que moi, je pensais que c'était juste une couche.
Non.
Non, madame, vous avez 6 couches qu'on va ouvrir. Ouais. On va ouvrir le muscle, on va ouvrir...
Mais c'est pas anodin, hein. C'est un acte...
C'est un acte chirurgical, mais je l'ai très bien vécu.
Ouais.
Quand même, c'est pas anodin, je l'ai quand même très bien vécu. Et bon, on va parler au fur et à mesure de l'épisode, mais mon postpartum s'est relativement bien passé. Bref, et donc du coup ils ont ouvert, donc il a ouvert, la première chose qu'il a vue avant même qu'il ne sorte de mon ventre, c'est mon fils qui fait pipi sur le chirurgien.
Bienvenue.
Et il me dit, ah bah il est même pas encore sorti qu'il me fait pipi dessus. Et là du coup je dis mais je l'entends pas, et Oui. Il me dit, mais il n'est pas sorti, madame.
Ah, il était encore dans...
Il était encore dans l'utérus. Dans mon ventre.
Oui, oui.
Qui faisait pipi dessus. Enfin, bref. Et donc, du coup, après, je l'ai entendu. Et forcément... Je pense qu'à partir de ce moment-là, d'un point de vue primitif, il y a quelque chose qui s'est passé de mon côté.
On est submergé.
Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, jusqu'à la fin de ma vie, je vais entendre cette voix le cri. Crier dans mes oreilles.
Le cri.
Et donc, du coup, voilà. Mais en réalité, je pense que les mamans, les futures mamans, ne doivent pas avoir trop d'attentes ni trop de réalité dans la question qu'on vient de poser.
Oui.
La seule chose que vous devez vous dire, c'est que bah, votre histoire est votre histoire.
Exactement.
C'est vous. Ça va se passer comme ça va se passer. Et que vous, vous faites de votre mieux. Et la meilleure manière de faire, enfin la meilleure manière que vous pouvez faire, c'est juste de faire de votre mieux.
Exactement.
En déculpabilisant, en vous disant, bah, je fais de mon mieux. Exact. Pendant ma grossesse, je fais de mon mieux. Pendant mon postpartum, je fais de mon mieux. Peu importe qu'on me dise que être une mère parfaite, c'est faire ci, faire ça, faire ci. Être une mère parfaite pour mon enfant, c'est juste lui apporter de l'amour et être la femme que je suis en faisant de mon mieux.
Et être présente. Oui.
Exactement. On va parler des premiers jours après la naissance. Comment tu l'as vécu ?
Juste après l'accouchement ?
Ouais, les premiers jours, là.
Alors, parce que toi...
À l'hôpital ? Attends, on va faire à l'hôpital et le premier jour maison.
Toi, tu m'as fait une frayeur. Ah. Une grosse frayeur.
Pas qu'une.
Oui.
Dans ma vie.
Quand t'es sortie, tu n'as pas crié.
Ouais.
Et on t'a posé sur moi et tu étais froide et bleue. Mm-hmm. Et je dis, c'est pourquoi elle est bleue comme
la
ça
panique.
Pourquoi j'étais pas bien. Après, je t'ai embrassée, bien sûr. Oh bah. Et puis la sage-femme, enfin l'équipe, elle t'a pris. Mm-hmm. En fin de compte, le cordon, il s'est enroulé.
Une écharpe.
Et après, bon, on t'a, je sais pas, et puis... Après, tu as crié, mais c'était un petit cri. C'était pas...
Ça t'a rassuré ?
Mais tu as crié quand même. Ouais. Mais pendant les 2 heures où j'étais... où j'attendais, et à chaque fois, je sonnais, j'arrêtais pas de... Après, la péricultrice, elle est venue au bout de 2 heures avec toi. Tu étais toute chaude, toute rose, toute belle. Et j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'a dit non, le cordon, il s'est enroulé. Mais elle m'a dit ça arrive souvent.
Ouais, ça arrive souvent. Hein. Ça arrive souvent. Souvent ouais,
mais c'est le fait que tu sois comme ça.
Ça fait paniquer, mais bien sûr.
Oui. Et après, bon, c'était la tétée. Et puis c'était le bonheur après.
Bah ouais.
Ouais, c'était.
Tu m'étonnes.
Ouais, t'étais. À chaque fois, on voulait. Bon, on va la prendre dans la nurserie pour que vous vous reposiez un peu. Non. Elle reste ici. À côté de moi.
À côté de moi.
Ouais. Tu m'as fait de l'ictère aussi.
C'est quoi de l'ictère ?
C'est la jaunisse.
Ah oui.
Oui, oui.
Ouais.
Et donc, tu as été sous la lampe
sous
bleue.
La lampe bleue.
Et la lampe bleue, quand tu t'emmenais à la lampe bleue, je ne dormais pas parce qu'ils mettaient un cache pour eux. Et le cache, il descendait jusqu'à ton nez.
Ah ouais.
Et moi, en cachette, c'était à pas de loup. J'allais et je relevais le... parce que j'avais peur pour la respiration.
Bah ouais, mais ouais.
Ouais. J'étais quand même un peu angoissée.
Ouais, ouais. Les chats ne font pas des chiens, comme on dit. Ouais. Moi, comment ça s'est passé ? Bah, du coup, comme j'ai eu une césarienne,
oui.
On me l'a pris directement. Il a crié, par contre, bah, comme j'ai dit juste avant, il a crié juste avant, et on me l'a pris directement parce que la pièce où il y a la césarienne est plus froide vu que c'est une opération chirurgicale.
Oui, que tout est stérilisé.
Mais j'ai quand même eu l'occasion de lui faire un câlin et de le prendre fort dans mes bras, et il a eu l'occasion de faire le pot à pot avec son papa.
Ah.
En attendant, moi, j'étais en salle de réveil pendant 2 heures.
Oui.
Et donc, du coup, j'ai détesté ce moment. Parce que c'était un vide intersidéral où tu te dis, bah, pendant 9 mois, tu tiens un bébé dans ton ventre. Le jour J, pendant 2 heures, il ne se passe plus rien et t'attends juste.
Ouais.
Et j'étais complètement dans le coltard à cause de la péridurale,
l'anesthésie et de tout.
Et du coup, après, on me ramène mon fils, mais j'étais pas dans la capacité physique de pouvoir le porter, ce qui m'a énormément frustrée. Et donc, du coup, je disais à Raph, porte-le parce que je ne me sens pas capable.
Oui, avec la...
Ouais. Et non, avec le corps engourdi.
Oui, oui.
Sauf qu'à un moment donné, le brancardiste prend le brancard pour qu'on remonte dans la chambre et il me met bébé dans les bras.
Mmh.
Mais sauf que je n'étais pas en capacité. Et en fait, instinctivement, boum, le fait qu'il me l'ait mis dans les bras et que je n'ai pas le choix...
Ça t'a donné...
J'ai eu une force d'un coup, comme si tout ce que j'avais était parti.
La nature.
Et je l'ai pris et c'était le meilleur moment. après la première tétée, c'était le meilleur moment.
Bien sûr.
Bien évidemment. Et du coup, pareil, on m'a dit, est-ce que vous voulez qu'on le prenne pour pouvoir faire en sorte que vous dormiez, parce que vous avez une césarienne, c'est quand même une opération chirurgicale. J'ai dit non, vous me le laissez à côté de moi. Oui. Et je me souviens que je regardais une série, il dormait, et dès que je m'endormais, il se réveillait pour pouvoir reboire, etc. Et tout. Et j'ai adoré l'après, à la maternité. Je trouve que ça s'est très très bien passé. Et le lendemain, j'étais debout en train de lui donner le bain alors que je devais pas.
J'ai vu ça.
La sage-femme rentre dans la chambre et me dit, mais madame, vous avez pas, c'est pas vous qui avez eu une césarienne? J'ai dit si. Elle m'a dit, mais asseyez-vous, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, mais je donne le bain. Non, pas du tout. Et c'est fou le corps humain, la puissance qu'il a.
Ah, tu relèves.
Tu peux soulever des montagnes.
Oui.
Et après, moi, ça a été différent quand je suis rentrée à la maison. Mmh. Quand je suis rentrée à la maison, en fait, quand tu as tout le personnel médical, tu te sens super accompagnée. Une fois que tu as une question, on te répond, etc. Quand tu es à la maison, tu es un peu lâchée, un peu dans la nature. Mais j'ai eu la chance que tu sois là pendant une semaine.
Oui.
Tu étais là exclusivement
pour vous.
Pour nous. Et heureusement.
Oui. Ta sœur aussi a été là.
Ouais, ma sœur était là. J'étais très, très accompagnée. Et franchement, ça, pour moi, c'est très important d'être très accompagnée.
C'était les nuits de colique où il ne dormait pas.
Ouais, c'était dur.
Donc, on se relayait.
Ouais. Et surtout, j'ai eu un petit down.
C'est normal.
Quand je suis arrivée, je me suis dit, OK, j'ai quitté cette maison. On était trois avec le chien. On revient, on est quatre.
Oui.
J'ai rien compris. Et je me suis mise à pleurer. J'étais pas bien.
Mais ça, c'est la chute des hormones.
Ouais. Mais c'est vite passé. Oui. Mais les premiers jours, je les ai adorés parce que j'étais avec vous.
Oui.
J'étais dans mon cocon. T'étais là. Ouais. Il y avait ma sœur. C'était Raph. Vraiment une bulle d'amour. Oui. Et j'ai eu la chance de le vivre comme ça.
C'est important. Avant, dans les sociétés, par exemple, en Afrique ou dans le Maghreb, enfin, tout le monde élève l'enfant.
C'est un village qui porte un enfant.
Oui, c'est ça. L'accoucher, elle est beaucoup aidée.
Mais
par contre, ici, en Europe, une fois que tu sors, tu es toute seule.
C'est vrai.
Et c'est pour ça qu'il y a ce postpartum. Enfin,
qui est dur.
Le baby blues.
Ouais, qui est plus intense.
Oui, qui est... Parce que les femmes africaines ou maghrébines...
Même en Asie. Hein.
Ouais. Ouais, en Asie,
Chine, toutes ces cultures-là,
tout le monde est avec là.
Orientale.
Oui, orientale.
Ouais.
La maman, elle est quand même très, très entourée.
Oui,
et la maman ne fait rien.
Oui, elle s'occupe juste de nourrir son enfant.
Voilà, elle ne fait rien. Et ça, c'est bien, ça.
Oui, mais c'est pour ça que même moi, j'encourage, par exemple, si vous avez des voisins ou des voisines qui viennent d'avoir un bébé, de ne pas hésiter à...
D'aller les voir
ouais. Pour leur... si vous vous entendez bien avec eux. Hein, mais même si vous vous entendez mal avec eux, c'est peut-être le moment de refaire un peu des liens. Parce que c'est vrai que l'arrivée d'un enfant, ça peut bouleverser. Et il y a beaucoup de parents qui, je trouve, ont des fois besoin d'aide et ne vont jamais demander. Donc si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vient d'avoir un enfant, n'hésitez pas à soumettre votre aide si vous avez envie d'aider, parce que c'est hyper important. Et même des fois, aider, ça peut être juste « bonjour, ça va, comment tu te sens ?»
Oui.
Et puis la personne, elle peut avoir envie de parler, ça peut éviter beaucoup de mauvais moments pour cette personne, parce que c'est quelque chose qui peut être très, 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 très chamboulant.
Le retour de la maternité, enfin, il n'est pas facile. S'il n'y a pas des personnes autour, c'est... Oui, ça peut être une dépression, le bébé blues.
Ouais,
le...
c'est vrai. On va parler de la pression sociale. Est-ce que tu as déjà eu affaire à une certaine pression de la société? Tu sais, la pression de la mère parfaite, de la famille parfaite, qui pouvait des fois être culpabilisante.
Les gens, ils ne vont pas te le dire.
Ah ouais, c'est vrai.
Oui, ils ne vont pas te le dire, mais sans qu'ils te le disent, toi-même, tu te dis qu'est-ce qu'il doit penser de moi, surtout si ton enfant il pleure, par exemple, dans un magasin, ou tu dis voilà, les gens ils vont dire que j'ai mal élevé mon enfant. Tout de suite, les préjugés, tout de suite, ils ne savent pas ce que la mère elle endure, ils ne savent pas comment il est l'enfant, c'est son vrai. Caractère.
C'est vrai.
Moi personnellement, non, je n'ai pas de souvenir d'avoir eu de... Moi, j'étais un peu... Enfin, je faisais ce que je pouvais.
Ouais.
Et enfin, vous étiez... Il n'y a pas eu de problème de...
Ouais, c'est vrai.
De quoi que ce soit, non, ça, non.
Mais
qu'est-ce que tu appelles par pression?
Des fois, par exemple, tu sais, le fait que tu sois une maman seule, est-ce que tu as déjà ressenti des personnes qui ont pu te...
Non, il y avait des gens, pour eux, enfin, c'est de la pitié. Mais de la pitié, je dis non, pourquoi la pitié? Enfin, je suis en bonne santé, je travaille, mes enfants vont bien, je préfère que mes enfants soient seuls avec leur maman qu'avec un papa violent, par exemple.
C'est vrai.
Ouais. Donc, non, on a un foyer, je travaille, enfin, tout est équilibré.
C'est vrai, c'est vrai.
Et ouais. Il y avait beaucoup d'amour aussi.
C'est vrai.
Et puis, il y avait la grand-mère, il y avait le grand-père, il y avait les tantes. Donc, non, il n'y a pas eu de... Même si les gens, oh là là, t'es toute seule, comment tu fais pour t'en sortir? Mais je m'en sortais.
Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est très juste. Moi, j'avoue ne pas avoir ressenti de pression non plus parce que c'est vrai que dans notre philosophie de vie, je dis notre parce que bah, on est un peu pareil. Enfin, on est pareil. On est pareil. Mais je veux dire... On
N'oublie pas que tu es une partie de moi. Hein.
Bah, bien sûr.
Oui.
Oui.
C'est le prolongement.
Oui, maman. Mais oui, mais complètement. Mais en fait, toi, tu nous as toujours inculqué de n'en avoir rien à faire du regard des autres.
Ouais.
Et en fait, à partir du moment où tu grandis dans ce... Comment te dire? Quand tu grandis dans ce dans cet état d'esprit,
oui.
La pression sociale et extérieure, moi aussi, j'en avais un peu rien à faire.
Alors là...
Et donc, du coup, je partais du principe... C'est pour ça que je vous ai dit que cet épisode allait être très déculpabilisant.
Alors
et
là...
c'est pour ça que, du coup, je me disais, bah, écoute, je fais de mon mieux. J'aime mon enfant.
C'est l'essentiel.
Je lui apporte tout l'amour et tous les besoins dont il a besoin. Et en gros, bah par exemple, les écrans, tu vois, par exemple.
Ah écrans. Oui.
Il y a beaucoup de parents qui vont dire « Ouais, mais les écrans, t'es pas bien, etc. » et tout, machin et tout. Et ben moi, des fois, je fais de mon mieux. En fait, bien évidemment que mon fils, il n'est pas scotché à la télé. Mais d'ailleurs, on n'allume plus du tout la télé. La télé est toujours éteinte. Mais il m'est arrivé, quand j'étais malade, d'allumer oui. la télé. Parce oui. que je me disais, mais en fait, c'est soit je ne vais pas être bien, et donc
t'as
mon enfant ne va pas être bien.
De te reposer aussi.
Oui, voilà. Et donc, du coup, ça m'est arrivé. Donc, du coup, tous ces trucs un peu de pression sociale qu'on voit sur les réseaux, etc., moi, j'essaie de m'en éloigner le plus possible, oui. de prendre les conseils que j'ai à prendre et de faire en fonction de ce que moi, je peux faire pour être une bonne maman pour mon enfant.
Exact.
Parce que si je suis dans un état psychologique de nervosité parce que, du coup, j'arrive pas à gérer, etc. et tout, je vais pas être une bonne maman pour mon enfant, par exemple.
Et lui, c'est pareil.
Et lui, c'est pareil. Et c'est vrai que, bah, du coup, moi, en tant que mère aussi, j'incite les autres mamans à être déculpabilisantes par rapport aux autres mamans aussi. Ça veut dire que moi, des fois, ça m'arrive de voir des mamans... Parce que mon fils, il entre dans un âge où il va taper. Voilà. Il a 2 ans, il est dans la contradiction. Vous commencez à connaître un peu tout ce que c'est le terrible tout. Et du coup, mon fils, un jour, je l'ai pris pour sortir... Enfin, je l'ai emmené faire du manège. Et du coup, je lui ai dit, bah, ça y est, tu as fini de faire le manège. Ça fait quand même 3 tours. 3 tours, c'est beaucoup.
Oui.
On rentre à la maison. Non, non, maman! Je le prends et il me met une tarte dans la tronche.
Oui.
Et du coup, bah, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai rien dit. J'ai dit non, on tape pas, c'est interdit. Et je voyais le regard des parents en mode, ils me regardent, mais tu sais, et je me dis, mais attendez, c'est vous qui me regardez comme ça alors que c'est vous qui êtes des parents, vous êtes censés oui. comprendre que oui. c'est un âge
oui.
normal.
Oui.
Et je me suis dit, bah, en fait, je m'en fiche, vous avez qu'à penser ce que vous voulez. Moi, mon fils, je sais très bien ce qu'il est, je sais très bien ce qu'il vaut, et je sais très bien qu'il a 2 ans et que c'est un âge de contradiction et que voilà,
bien
ça
sûr.
Va passer. Et du coup, j'essaie de m'en détacher. Et franchement, si vous écoutez cet épisode, détachez-vous vraiment du regard des autres parents qui va être culpabilisateur par rapport à vous.
C'est ça.
Et par exemple, je sais qu'à un moment donné, j'ai eu une voisine, sa fille criait, hurlait... Et elle a 2 ans, elle criait, elle hurlait, elle parlait fort. Et puis j'entends forcément en tant que voisine, bon, on entend les cris, les larmes, etc. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas parce que bah, du coup, je sais ce que c'est en vrai. On ne peut pas arrêter les pleurs d'un enfant comme
pas
ça.
Du
quoi.
Tout.
Et donc du coup, j'entendais aussi la maman crier, hurler. Bah, à un moment donné, ça peut t'arriver de craquer, de crier, de pleurer. Et je me suis dit, j'entends des cris de partout, je pense que cette voisine a besoin de mon aide. Voilà.
Mmh.
Et je me suis dit, je ne veux pas être auditrice de ce qui se passe alors que je peux l'aider.
Bien sûr.
Et donc, du coup, je suis montée la voir. Je suis montée la voir et j'ai eu un petit peu peur en montant la voir parce que je me suis dit, j'ai peur qu'elle pense que je la dérange, qu'elle me dérange.
Et même de quoi je me mêle
voilà.
aussi.
Mais je me suis dit, si je peux sauver une situation, peu
oui,
importe.
Pourquoi pas.
Parce
oui.
que pour moi, c'est important d'aider les mamans.
Oui.
Et donc, du coup, je suis montée et je l'ai entendue dire « Mais tu vois, les voisins, ils sont venus à cause de toi, etc. » Mais elle était à bout, c'est normal oui, d'être oui, à bout. Il faut aussi déculpabiliser, d'être à bout aussi et d'être fatiguée. Et donc, du coup, je suis montée la voir. Je dis bah, « Écoutez, la première chose que je voulais vous dire, c'est que vous ne me dérangez pas du tout. Les cris et les pleurs d'un enfant, ça ne va pas me déranger. Donc, déculpabiliser par rapport à ça, parce qu'on a déjà beaucoup à culpabiliser. Je voulais juste vous dire « Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» Et en fait, elle était choquée.
Tu vois ?
Et elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit, ça fait 2 heures que j'essaie de l'habiller pour aller au parc. Et la petite, je la voyais, elle était en culotte par terre en hurlant. Le terrible tout. Et donc, du coup, je lui ai dit, je lui ai demandé son prénom. Je lui ai demandé, est-ce que vous voulez que je vous aide ? Est-ce que vous voulez qu'on parle ensemble ? Tu sais, en fait, il y avait besoin d'un élément pour calmer la situation.
Oui, oui.
Et je me suis dit, il faut que je sois cet élément-là. Et donc, du coup, je lui ai demandé si
t'es
je pouvais rentrer.
Bon
je suis rentrée. Je lui ai demandé comment elle s'appelait. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez que je lui parle ? Donc, je me suis mise à lui parler. Et du coup, au fur et à mesure du temps, elle s'est calmée. Mm-hmm. C'était dur au début. Hein. Et j'ai dit, bon, bah, je vais y aller. Elle m'a dit, merci infiniment. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans que vous soyez là.
Yes.
Et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important d'être attentif à ce qui nous entoure et aux mamans qui nous entourent. Que vous ayez des enfants ou non, ce n'est pas évident. Et en gros, on peut être acteur de quelque chose de bon pour un parent qui peut le marquer longtemps et qui peut marquer aussi longtemps l'enfant.
Bien sûr.
Donc, si jamais vous entendez des mioches crier dans les supermarchés et tout, s'il vous plaît, même si ça vous saoule, arrêtez de mal regarder les mamans.
C'est vrai.
Parce que franchement, on n'est déjà pas bien par cette situation. Alors, en plus, avoir des regards, mais c'est le pire.
Les gens, c'est toujours, oui, parce que s'il était bien élevé...
Alors que ça n'a rien à voir.
Non, pas du
vraiment,
tout. Un enfant à 2 ans, désolé, un enfant à 2 ans, il ne sait pas...
Il a tellement d'émotions. Alors, toutes les personnes qui jugent les enfants qui ont 2 ans, regardez plein de vidéos sur TikTok sur le terrible tout, vous allez voir. C'est trop d'émotions d'un coup, trop d'enfants d'un coup.
Oui.
Donc du coup, tu peux être l'enfant le plus calme du monde et passer à un état qui n'a rien à voir parce que tu n'arrives pas à gérer encore tes émotions. Ton cerveau est immature
oui,
pour
un enfant, quand il frappe sa mère ou son père, il ne le frappe pas par sadisme.
À l'âge de
2
ans ou autre, non, il n'a aucune conscience
pour lui,
de ça.
Oui. Et si l'adulte répond par... la violence, c'est que l'adulte lui-même, il est...
Ah non, oui, non.
C'est
là,
que ça... Ouais, ça ne va pas.
Ouais, ça ne va pas, bien sûr. On va parler du jugement de soi.
Mm.
Alors, moment très, très, très important. Est-ce que tu as vécu des moments où tu as déjà culpabilisé en tant que jeune maman ?
Culpabilisé.
Parce que parfois, on se retrouve forcément dans des problématiques liées à la santé où, bah, du coup, on est impuissant.
Culpabiliser parce que comme j'étais toute seule, je devais travailler, je devais beaucoup travailler et il m'est arrivé de travailler, je faisais les 3-8.
Ouais.
C'est-à-dire je travaillais une semaine, je travaillais le matin, une semaine l'après-midi et une semaine la nuit. Donc bien sûr que c'était... t'étais avec ta grande sœur, il y avait mon père qui était avec vous et tout ça... Mais je culpabilisais parce que j'ai dit, normalement, je ne suis pas ici.
Ah ouais,
normalement,
je
suis avec mes enfants. Mmh. Mais après, j'ai dit oui, mais si je ne travaille pas, comment faire ?
Si tu travailles pas, on ne mange pas.
Mais vous avez eu la chance aussi. J'habitais vraiment... ma mère, elle était au premier étage et moi, j'étais au 3e étage. Donc, ma mère et ma sœur, elles étaient là. Et mon père aussi était là. Enfin, la famille était là.
Ouais.
Donc, oui, une certaine culpabilité. Après, j'ai dit, bon, si je ne travaille pas non plus...
Bah, t'étais toute seule aussi. Hein.
Oui, si je ne travaille pas, qui paye le loyer, qui
exactement.
Paye... Enfin,
exactement.
C'est pour votre bien-être aussi.
Exactement. Non, mais je comprends, mais
oui,
en même
avait...
temps, t'étais toute seule. Donc,
oui. Il y avait cette culpabilité. Si on appelle ça culpabilité, oui. Je sais pas. Mais il y a beaucoup de femmes dans cette situation. Hein.
Oui, c'est vrai. Et tant qu'on apporte de l'amour à son enfant et tout ce
qu'il a besoin. Ah, il y avait beaucoup d'amour. Hein. Il y avait, non, il y avait, enfin, la maison, c'était quand même un foyer très, très chaleureux. Hein.
Ah bah, bien sûr.
Vous manquiez de rien. Financièrement, quelquefois, c'était un peu... c'était pas dur, dur, mais c'était... ouais, mais c'était... vous avez
mais toujours... le plus important, c'est quoi?
C'est l'amour.
Voilà.
Et le week-end, j'étais avec vous. Enfin, j'étais toujours collée à vous.
Ah bah.
Ou alors collée à moi, je sais pas.
on est parfois aussi confronté à des problématiques liées à la santé de notre enfant.
Qu'est-ce qu'on a peur pour ça?
Ouais.
Mon Dieu.
Ça, c'est... La seule en fait, angoisse... c'est la chose pour laquelle on est vraiment impuissant.
La seule angoisse d'une maman ou d'un papa, c'est que quand l'enfant, il naît, il est là, tu te dis, ouh là là, et ce petit ou cette petite, s'il lui arrive quoi que ce soit, enfin, le monde s'effondre. On a peur pour la santé de ses enfants. Et quelquefois, quand ses enfants souffrent, on se dit...
On préfère que ce soit nous.
Nous.
Complètement. Mais du coup, moi, quand j'étais petite, j'ai eu de l'eczéma. De l'eczéma du nourrisson. C'est important pour moi de faire une petite parenthèse médicale sur l'eczéma du nourrisson. Avant d'entamer ce sujet-là, qui est un sujet qui est très important pour nous et pour toi aussi aujourd'hui. L'eczéma du nourrisson, ou alors la dermatite atopique.
La dermatite atopique. Ouais,
touche environ 10 à 20% des enfants avant l'âge de 2 ans. Et se manifeste par des plaques rouges qui apparaissent souvent par poussée, et les crises sont suivies de moments d'accalmie. Le nourrisson se gratte, provoquant ainsi une inflammation qui aggrave les lésions et les démangeaisons. La qualité de son sommeil peut diminuer et l'enfant devient grognon et fatigué. Si votre enfant est touché par l'eczéma du nourrisson, il est évidemment primordial de consulter un spécialiste qui pourra vous aider à trouver des solutions. Toi qui as vécu l'eczéma du nourrisson en tant que maman, comment est-ce que tu l'as vécu?
Avant ça, tu avais fait de la bronchiolite.
Oula.
D'accord. À un mois et demi, deux mois... Après, tu as développé, comme on dirait, un terrain allergique.
D'accord, ok.
Et vers 4-5 mois, tu commençais à gratter. Enfin, c'était des plaques au niveau des joues, le menton, surtout là, comme ça.
Je me souviens encore des photos
où
j'avais les plaques.
Et c'était horrible parce que quand tu te levais le matin, ton drap, il était taché de sang. Parce que tu frottais, parce qu'à l'époque, on vous mettait sur le ventre pour vous coucher. Et tu étais là et tu cherchais toujours à... Donc, j'ai consulté plusieurs spécialistes. Il y avait des préparations, de l'eau, enfin un truc pour nettoyer la peau, les crèmes, toutes sortes de... Et plusieurs dermatos. Je t'ai emmené à l'hôpital chez le spécialiste. Et c'est toujours pareil, toujours badigeonné, toujours, mais ça restait toujours. Jusqu'au jour où mon père, il te voyait comme ça, il m'a dit, mais c'est pas possible. Ça...
Ouais, tu te sentais impuissante.
Oui, malgré enfin, les visites, les spécialistes et tout. Et mon père, pendant un moment, il avait des problèmes de peau, il allait voir son dermato. Il me disait, va voir docteur. Voilà. Et puis je dis, mais non, papa, ça n'a rien à voir. Il m'a dit, emmène-le voir.
Emmène-la.
Emmène-la, pardon.
Le bébé aussi.
Oui.
Emmène le bébé.
Ouais. Chez le docteur, après j'ai dit, bon, j'ai tout essayé parce que tu souffrais. C'est vrai.
Tu te sens démunie en
tant que maman. C'est ce que tu disais aussi. Enfin, l'enfant est grognon.
Ouais.
Parce qu'il dort très, très mal.
Ouais.
Et c'est toujours ça, c'était une esthétique aussi, hein. C'était des plaques.
Bien sûr,
des plaques. Et puis, tu n'oses même pas toucher quand je te nettoyais ou j'ai dit je vais lui faire mal et tout. Tu étais courageuse. Hein.
Toi aussi?
Non, toi, tu étais courageuse.
Bah, moi, j'étais un bébé.
Oui, mais je veux dire que, enfin,
oui, c'est vrai. Mais
en te voyant comme ça, j'ai dit, ah.
Ça te brisait le
cœur. Oui, en plus, c'était avec des plaques comme ça. Et je dis, elle est jolie, mais c'est dommage. Oh là là, je voulais que t'aies une police et tout.
Oui, mais c'est surtout que je pense que tu voulais avoir des contacts aussi avec moi, de me faire des bisous.
Comment mais ça, je te c'est... faisais des bisous.
Ah.
Oui, ça c'est même... Et donc, j'ai dit, bon, je vais écouter mon père, je l'emmène voir docteur. Mm-mm. Et j'ai été voir ce docteur. docteur. Et quand il t'a vu, tout de suite, il a dit la dermatite atopique, c'est ça ?
Exactement.
Alors, il me préparait une préparation chez le pharmacien que j'allais chercher pour ton traitement. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à disparaître. Mmh. Et tu as commencé à avoir une peau plus nette et plus... Et ça allait mieux.
Et est-ce que tu aurais des conseils à donner justement par rapport aux parents qui sont confrontés à ce genre de situation comme toi ?
Donc la première chose, bien sûr, c'est de consulter.
De consulter un spécialiste.
Un spécialiste.
De continuer à hydrater la peau de son enfant.
Toujours. Toujours. C'est pas parce que c'est un bébé quand on dit bon, c'est un bébé, il a la peau lisse, il n'a pas besoin de... un nourrisson, au contraire, il a la peau sèche. Donc, il faut hydrater. Et ça, enfin, même son corps.
Pour moi, c'est super important aussi de déculpabiliser les parents parce que ce n'est pas de votre faute.
Pas du tout.
Si votre enfant souffre d'eczéma, parce que c'est justement multifactoriel. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs allergiques. Environnementaux, allergiques, etc. Et surtout, pendant cette période-là, il ne faut surtout pas arrêter d'être tactile avec son enfant.
Oui.
C'est aussi très important, comme tu l'as dit juste avant, toi tu continues à me faire des bisous,
bah oui.
etc. C'est super important parce que même si sa peau a de l'eczéma, ça n'empêche pas d'avoir du contact avec les autres. Ouais, et c'est super aussi important de bien observer les traitements et de veiller à le faire en respectant l'intimité de l'enfant, de son corps et surtout aussi de son espace.
C'est ça.
Ça c'est vraiment primordial. Moi j'ai une question, parce qu'au début, tu disais... Moi, je me suis oubliée en tant que femme. Je n'existais plus. J'étais une maman. Est-ce que tu as continué à réussir à prendre soin de toi en tant que femme après ma naissance ? Je rigole d'avance parce que je connais la réponse.
Si je continue à prendre soin de moi, elle m'a dit maman que j'étais propre et que je ne sentais pas. C'était l'essentiel. J'étais comme un pompier, j'étais toujours...
Sur le qui-vive.
Oui, c'est... Non, c'était pas une époque glamour. Pas du tout.
Ouais, mais je pense que dans ton parcours, c'était pas ta priorité. Pour toi, c'était très important pour toi de prendre d'abord soin de tes enfants.
Oui.
Genre, nous, on était toujours tirés à quatre épingles. Enfin, tirés à quatre épingles. Bah, mais oui. On était on flic, comme on dit, nous, en tant qu'enfants.
Comment ça ?
On flic ?
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on était tout beau, tout pimpin.
Oui. Bah oui.
Mais du coup, moi, je vais parler de moi. Alors, ça a été très compliqué de prendre soin de moi en tant que femme, puisque je me suis un peu oubliée en tant que femme.
On s'oublie, hein ?
Ouais, on s'oublie. Mais le moment où j'ai décidé de me dire que ça commençait à m'atteindre psychologiquement, de pas prendre soin de moi, je me regardais dans le miroir et je me disais, Shira, c'est pas possible. Ok, ton enfant, tu t'en occupes et c'est très bien et tu t'en occupes très bien. Mais à un moment donné, si sa maman dans sa tête, elle se sent pas bien parce qu'elle se sent pas bien dans son corps et dans sa peau, bah, va falloir qu'elle prenne soin d'elle. Donc du coup, moi c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps, mais quand c'est arrivé, ça m'a fait un bien fou. Et c'est fou que, par exemple, il y avait des choses très simples comme... m'hydrater la peau après la douche. C'était un moment que je faisais vachement pendant ma grossesse pour justement éviter tout ce qui est vergeture, etc.
Oui.
Et que j'ai complètement oublié de faire après. Mais j'aimais quand même me réserver ce moment-là, après la douche, de me dire je me badigeonne et c'était mon moment à moi. Donc c'est comme si je me faisais un câlin à moi-même.
Ah, d'accord.
Et des fois, alors vous allez vous moquer de moi, mais quand je me crémais la peau, je me disais je t'aime à moi-même.
Mais tu as raison.
Et je me disais je m'aime. Et je me badigeonnais la peau et je me disais je m'aime. Mon corps est incroyable. Alors que je le pensais, je me trouvais pas belle à cette époque. Mais le dire, ça me faisait du bien. Je me trouve extraordinaire. Mon corps a donné la vie. Je suis en bonne santé. Et voilà. Et rien que le faire de temps en temps, je le faisais pas tous les jours parce que j'étais très fatiguée, mais de temps en temps, c'était ma petite bulle. Et ça me faisait du bien psychologiquement de le faire. Ça.
C'est comme aussi quand tu fais du sport.
Ouais, c'est vrai.
Et que ton cœur, il a bien fonctionné. Tes genoux, ils ont bien tenu.
Ton sang circule
après,
dans ton corps.
Après, tu es en train de prendre ta douche. Tu dis, bon, merci mes genoux.
C'est vrai.
Merci mon dos.
Je le fais aussi. Je le faisais dans la douche aussi.
Ouais, merci mon cœur. Merci. Tu remercies tes organes.
Ouais.
Enfin, je ne sais pas si c'est débile. Je ne sais pas si c'est débile de dire ça. Mais tu remercies ton corps qui a tenu quand même.
C'est vrai.
Parce que tu te dis...
Mais tu sais que le faire en le faisant... Bah c'est pour ça que quand tu te mets de la crème ou quand tu te laves, vu que tu touches le corps, c'est un peu le moment de parler à ton corps.
Oui.
Et ben moi, c'est ce que je faisais. Mais je pense que c'est parce que tu me l'avais dit. C'est sûr que c'est parce que
toujours
toi, tu me l'avais
dit. Toujours, il faut remercier.
Et donc, du coup, quand je me mettais de la crème sur les pieds, je disais « Merci mes pieds de me porter, les genoux. »
C'est ça.
« Merci de mes pieds de marcher. »
C'est grâce à vous.
Voilà, exactement. Et c'était un petit peu mon moment.
Toujours.
Mais
tes mains, tout.
Mais j'ai mis du temps à reprendre soin de moi, à aller chez le coiffeur et tout.
Bien sûr.
Mais le moment où j'ai compris qu'il fallait que je le fasse, ça a été un déclic. Et j'ai réussi à me dire « Ok, c'est ma bulle à moi, c'est mon moment et c'est tant mieux. »
Oui.
Et ça me permettait d'être une meilleure maman après. Parce que quand t'es en mode maman tout le temps, bah, des fois t'es un peu frustrée, je trouve.
Oui, bien sûr. Enfin, tu vas t'octroyer un moment, une parenthèse.
C'est ça.
Ça, c'est pour toi. Et ça, on peut le faire.
Oui, on peut toujours...
On peut le faire.
Au moins avoir, comme les 5 minutes après la douche que moi j'avais.
Ouais, on peut le faire.
Vu qu'on est sur Bip Sonore, est-ce que t'as un message réconfortant ou inspirant à passer à des nouvelles mamans, des jeunes mamans?
Alors, moi, ce que j'ai à dire aux mamans et aux futures mamans, ne vous prenez pas la tête. Faites comme vous le sentez. Comme vous pouvez. Éloignez-vous des regards des autres ou alors carrément les ignorez. C'est quand on est avec son enfant, on est dans une bulle, c'est-à-dire on ne regarde pas les... On ne va pas regarder les regards des autres.
C'est le regard de l'enfant qui compte pour moi.
Voilà, toi, tu es avec ton enfant et les autres, on laisse de côté.
Je suis d'accord avec toi. Moi, si j'ai un message, parce que oui, je suis maman aussi.
Bien sûr.
À faire passer aux jeunes mamans, c'est de vivre votre vie de jeune maman... en faisant comme vous pouvez, du mieux que vous pouvez, sans vous mettre trop de pression, déculpabiliser parce que vous n'allez pas être une mère parfaite par rapport à la société, mais l'essentiel sera que vous soyez une mère parfaite pour votre enfant. Mais vous êtes déjà une mère parfaite pour votre enfant parce que vous êtes sa mère et parce que vous lui apportez de l'amour, joie. Et des moments de tendresse et
de la sécurité.
Pour moi, le plus important en tant que mère, c'est de donner le meilleur de soi-même et de se libérer de tout ce qu'on attend de vous d'un point de vue extérieur parce que votre enfant, il a juste besoin de vous et de votre amour.
Oui.
Et que votre histoire, c'est votre histoire. Et que c'est pas l'histoire des autres. Donc, ayez un certain lâcher-prise sur ce que vous allez avoir avec votre enfant. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. N'attendez pas trop aussi de votre enfant. Je trouve que c'est important. Juste partager ces moments d'amour qui sont exceptionnels et uniques en apaisant votre cœur et en...
Et c'est avec ça que l'enfant se construit.
Exactement. J'ai trop aimé cet épisode avec toi, maman.
Ah, moi aussi, j'ai adoré.
Franchement, j'ai adoré parler de ces sujets-là avec toi. Merci beaucoup pour ton témoignage et tes témoignages.
Mais je t'en prie.
Et merci beaucoup à Dexeril d'avoir sponsorisé cet épisode et de nous avoir permis de parler de l'eczéma du nourrisson, qui est un sujet qui est très important.
Très important, oui.
Et j'espère qu'on vous a fait du bien, tous, à travers cet épisode. On leur fait des bisous ?
Des gros bisous.
Des gros bisous. Bisous, bisous.
Et à la prochaine.
À très vite.
À un autre sujet.